La deuxième porte à gauche, c'est une compagnie jeune, est-ce qu'on peut encore dire jeune, en tout cas, une compagnie de production en danse qui a été formée par des gens sortant de l'école de danse, interprètes et chorégraphes, et qui se donne comme mission, si on peut dire, et plaisir et action, d'investir des espaces publics ou des espaces qui ne sont pas habituels pour la danse contemporaine. Il s'agit de sortir de la boîte noire dans laquelle ont lieu les shows d'habitude, puis d'aller se confronter, puis questionner le rapport entre les artistes et le public, entre l'œuvre d'art et le contexte dans lequel c'est proposé, et entre tout ce qui est décalé ou à partir du moment où c'est décontextualisé. Fait que la deuxième porte à gauche, on produit déjà plusieurs spectacles de genre. Cette équipe-là a occupé une vitrine de Simon sur Sainte-Catherine, a fait un show dans des apparts privés intimes, dans des espaces intimes. Ils ont travaillé dans la rue. Et cette fois-ci, pour ce spectacle-là qui s'appelle Danse à 10, donc, ils investissent le Kingdom Gentlemen's Club, qui est un bar de danseuses sur la rue Saint-Laurent. Puis avant d'aller un petit peu plus loin là-dedans, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, cette saison-ci, ce que je vous ai proposé comme chronique danse, c'est non pas tant des chroniques régulières cette fois-ci, mais d'intervenir quand il est possible de faire un lien ou de faire une réflexion conjointe entre l'œuvre d'art qui est proposée et la dimension sociopolitique qui est en jeu. Ici, c'est évidemment ce qui est en question, c'est le rapport au travail du sexe, la représentation du travail du sexe, la réalité du travail du sexe, puis la manière dont on se l'imagine et on entre en interaction avec le métier et aussi les personnes qui l'exercent. Fait qu'aujourd'hui, si ce que cherche à faire la deuxième porte à gauche, c'est effectivement brouiller les frontières entre spectateurs, spectatrices et artistes sur scène, ou plutôt brouiller les frontières des lieux dans lesquels on aperçoit ou on expérimente ces propositions artistiques, on peut dire que dans ce cas-ci, ça réussit. Puis là, j'ai envie de vous en parler un peu à brûle pour point, un peu en dérive, notamment pour illustrer, pour faire exprès, pour pas être trop structuré, pour illustrer effectivement le brin de déroute dans lequel ça met. On rentre au Gentleman's Club, le Kingdom, et puis c'est un espace, pour les personnes qui sont déjà allées ou qui voient, c'est un espace qui est grandiose. Il y a des lions dorés, des velours rouges, des arbres à l'intérieur. On passe un détecteur de métal. Le décorum, l'espace est scéniquement déjà très, très chargé. Fait que déjà, on peut se dire que c'est pas pour rien que des artistes choisissent cet espace-là plutôt qu'un autre. Il est comme tout l'espace est théâtral. Et ce qu'a fait la deuxième porte à gauche, c'est inviter 8 équipes de chorégraphes et d'interprètes à travailler ensemble sur des numéros qui vont apparaître tout au long de la soirée sur la scène principale, mais aussi des solos qui ont lieu dans les isoloirs où se passent les danses à 10, qui sont des danses à 20, dans les isoloirs. Alors, toute la soirée, chacune des équipes circule dans l'espace puis viennent solliciter les gens pour que tu les suives et que tu ailles expérimenter un solo tout seul dans un isoloir aussi avec les personnes. Et effectivement, quand on rentre dans l'espace, on dans l'espace, il y a les films porno qui sont là, on les a pas enlevés, ils sont présents. Et puis après le show de la deuxième porte à gauche, va se passer la programmation régulière du Kingdom. Fait qu'effectivement, les gens se mélangent, mais bien sûr, on sent tout de suite que c'est pas les spectateurs et spectatrices habituels de ce qui se passe là. Il y a un décalage dès le départ. Puis une des choses sur laquelle j'ai envie d'insister ou peut-être parce que tu vois, c'est un peu difficile de l'aborder. On sait pas trop si on l'aborde du point de vue du regard de l'œuvre d'art ou de ce qui s'est passé humainement. Si on regarde d'un point de vue féministe ou d'un point de vue militant, comment est-ce qu'on l'aborde? Un des trucs flagrants, c'est dans les propositions des 8 équipes de chorégraphes et d'interprètes. Un show comme ça, ça se monte. Chacune des équipes travaille de son côté, puis après ça, il y a un assemblage ensemble. Un des trucs qui était vraiment très, très flagrant, c'est que la majorité des équipes ont fait des choix dramatiques. Ils ont fait des courbes dramatiques. Pour la plupart, sauf un peut-être qui est comme beaucoup dans la dérision, mais pour la plupart, on est toujours dans des courbes descendantes, en fait, puis les mouvements sont descendants, mais littéralement, là, tu sais, les interprètes, les filles partent du haut des poteaux puis se laissent glisser jusqu'en bas, les corps descendent, il y a une espèce de sentiment de... il y a une apesanteur qui s'installe. On n'est pas tant dans le jeu ou la représentation de la chute de la jeune fille naïve, pas du tout, mais on est quand même dans la tristesse, dans la courbe dramatique, c'est comme ça qu'on s'est représenté les choses. Puis, de façon assez flagrante, j'avais en tête, au moment où j'ai repensé, où j'étais, le contraste entre cette énergie-là ou cette représentation qu'on a pu se faire et l'énergie qui a cours dans, par exemple, les cabarets que monte Stella pour en soutien à la lutte pour la fin du mépris, pour faire de la place à la pleine autodétermination des travailleurs et travailleuses du sexe, pour la reconnaissance de ce que ces femmes-là vivent comme réalité et de la reconnaissance aussi de ce que toutes ces femmes-là font comme lutte contre la violence faite aux femmes. Le contraste est comme absolument évident. Tu sors d'un cabaret de Stella, t'es galvanisé, t'as de l'énergie à en revendre, t'as envie de te joindre complètement à elle, alors que dans ce spectacle-là, on était beaucoup dans la tristesse. Si je parle d'un point de vue un petit peu plus artistique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire, en fait. Puis j'ai envie aussi de vous inviter à aller lire les critiques, mais les lire non pas comme des critiques pour se dire est-ce que c'est un bon show ou pas un bon show, mais pour observer de quelle manière est-ce que les gens qui ont écrit dans les journaux ont abordé cet objet-là, la manière dont chacune des personnes qui écrit la borne entre... Fait qu'il y a des critiques, je vais juste vous les nommer pour que vous y alliez. C'est comme il y a des critiques dans Le Voir, dans la presse, dans Le Devoir, j'essaie de retrouver le nom, là, c'est pour ça que je patauge. Une fille qui s'appelle Elsa, je ne le retrouve plus, allez le voir, c'est dans Le Voir en tout cas, et la critique de Catherine Lalonde aussi, pour voir de quelle manière est-ce qu'on se représente et le travail de représentation et le travail du sexe. Un des trucs que j'ai envie de dire aussi, ce qui est assez intéressant, c'est ce sur quoi travaillent les gens. On peut voir aussi les personnes qui sont citées dans ces articles-là. Je pense à Marie Bellan, on entend parler Clara Fré, on entend parler Mélanie Demers, on entend parler... ce qu'on voit aussi, c'est la démarche que ces personnes-là mènent. Ils parlent du fait que les questions qu'ils se demandent, c'est qu'est-ce que la différence entre la danse qu'on retrouve dans l'espace... dans un espace scénique, puis la danse qu'on retrouve sur scène. Là, qu'est-ce qu'on a en commun comme interprète en danse contemporaine avec les effeuilleuses ou les filles qui développent des techniques du corps? À ce sujet-là, j'ai eu une conversation avec Mélanie Demers, qui est une des chorégraphes qui travaille avec deux interprètes, une qui fait partie de sa compagnie régulière, Angie, et Sarah Eleonore, qui elle travaille, a travaillé comme danseuse, qui a travaillé déjà au Kingdom aussi. Puis toute la conversation que j'ai pu avoir avec Mélanie portait autour de la rencontre entre les deux univers, de la rencontre, la manière dont on perçoit la nudité, parce qu'en danse contemporaine, on travaille beaucoup la nudité des corps, on les montre, on les travaille, on les façonne, puis manifestement, ce qui se confrontait, c'est qu'on n'a pas la même perception de ce qu'est la pudeur. Certains gestes en danse contemporaine peuvent être extrêmement crus, mais ils sont acceptables. Et puis, un des trucs qui est notable aussi, c'est qu'une jeune compagnie de production qui investit un club de danseuses se retrouve en première page du Voir. Ce qui n'est pas le cas des filles qui y travaillent en général. Et ça révèle la représentation qu'on se fait, et c'est clair que le mépris qui est porté sur les travailleuses du sexe est absolument pas la reconnaissance et la fascination qu'exercent des métiers de la scène par ailleurs. Et donc, je reviens avec Mélanie Demers, qui me parlait beaucoup de la rencontre et de la confrontation de toutes les façons de voir, de percevoir le jeu du corps, la manière d'être sur scène, la manière dont... Sarah Eleanor construit son personnage de Betty Wall versus la manière dont les interprètes construisent leur personnage. Et ça, moi, j'ai trouvé ça, effectivement, si on prend d'un point de vue militant, politique, féministe, passablement inspirant, parce qu'on cherche effectivement à déplacer son regard puis à recevoir réellement ce qui est la parole, la posture et l'expérience de la personne qui est en face. C'est plus inspirant que ce qu'on a pu voir cette semaine dans les propositions d'action pour la journée contre la violence faite aux femmes, où certaines parmi les actions proposées, il y avait celle d'entrer dans un club de danseuses et de pousser un grand cri un hurlement de colère. C'est un geste super brutal, en fait, à l'endroit des personnes et des femmes qui leur mettaient certainement pas dans l'écoute et dans la rendre. Fait qu'en ça, on peut dire que la démarche, puis là, je peux pas élaborer sur ce que fait chacune des personnes et comment chacun des solos s'est élaboré. Si on en parle d'un point de vue artistique, on a aussi bien reconnu les signatures de chacune de ces chorégraphes-là. On a reconnu les femmes qui piaffent de Manon Olini, qui, elle, est une chorégraphe qui travaille beaucoup sur la représentation du corps, sur la sexualité, sur l'imaginaire de la sexualité. On a reconnu je pense à un moment, je parlais de Mélanie Demers, il y a un instant où ce que propose Mélanie Demers, c'est justement un striptease, mais elle parodie l'aspect entertainment du truc, puis on poursuit jusqu'après le striptease, jusqu'à ce que le personnage s'assoit après qu'elle ait fini son show, s'allume une cigarette, puis ce qui se passe ensuite. C'est aussi une figure du désenchantement dans ce cas-ci. Artistiquement, il y a eu un instant d'étincelle dans ce moment-là parce qu'on s'est retrouvé dans un univers de cinéma avec, comme s'il y avait eu une intégration de tout lieu avec la personnage, avec l'éclairage, avec sur scène. On voyait une scène de cinéma. Puis dans ce show-là, c'est assez mouvant, en fait. C'est-à-dire que chacun des... faut l'accoter, ce lieu-là. Là. Il est scénographiquement vraiment très, très fort. Puis peut-être un dernier mot, puisque on va dans tous les sens pour
puisque
conclure.
Puisque c'est les dernières secondes.
Exactement. Donc, pour conclure, dans l'isoloir, je suis allée avec justement ce personnage Betty Wall, et ce qu'elle a mis en scène avec Mélanie Demers et Angie, c'est un rapport de pouvoir, en fait. Littéralement un rapport de pouvoir. Et leur solo fonctionne vraiment très, très bien, puisque effectivement, pour un peu qu'on laisse pas dissiper l'énergie en riant ou en s'évadant, puis qu'on le fait vivre, c'est un moment assez désagréable qui est assez fort, notamment parce qu'il nous questionne sur les rapports de pouvoir qui sont en jeu. Voilà. Alors, c'est encore au Kingdom les 19, 25, 26 et 27 septembre, et j'aimerais que vous y alliez et qu'on en reparle.